Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce vendredi 30 avril, l'hommage national rendu à Stéphanie Monfermé une semaine après son assassinat par un terroriste.
Le terrorisme islamiste n'est rien d'autre qu'un fanatisme sanguinaire. Ce fanatisme nous a déclaré la guerre, mais c'est une guerre de lâches. Seul un lâche peut s'en prendre à une femme qui, conformément à son statut d'agent administratif, ne portait pas d'armes.
Discours de Jean Castex et une cérémonie sobre et émouvante à l'image de cette femme qui travaillait depuis près de 30 ans au commissariat de Rambouillet. La vaccination élargie pour accompagner un retour à une vie presque normale. Olivier Véran l'ouvre à partir de demain à tous les Français de plus de 18 ans dits fragiles parce qu'ils souffrent de comorbidité. Ça représente 4 millions de personnes. Dans RTL Midi aussi, nous donnerons la parole à ceux qui ne rouvriront pas du tout, les gérants de discothèques qui se sentent oubliés, voire discriminés. Bridgestone à Béthune, cette fois c'est fini, l'usine ferme ce soir. Les derniers salariés présents sur le site sont amers. Israël confronté à l'une des plus graves catastrophes de son histoire, une bousculade géante lors d'un pèlerinage juif orthodoxe a coûté la vie à 44 personnes dans le nord du pays. Question, qui a dit ce matin « C'est un peu le camping, mais c'est que du bonheur ?» Réponse à la fin de ce journal. Indice, il est à 400 km au-dessus de nos têtes. La météo, bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Christelle, bonjour à tous.
Le ciel est menaçant.
Oui, particulièrement sur la moitié sud et surtout des Pyrénées aux Alpes avec des orages possibles en fin de journée. Ça reste instable aussi pour la moitié nord avec des nuages, un risque d'averse, mais tout de même quelques éclaircies. Là où on va voir revenir le soleil, même si c'est timidement, c'est près de la Méditerranée. Il faudra en profiter, ça va se dégrader à nouveau demain. Côté température, on reste 3 à 5 degrés sous les normales de saison, une moyenne de 12 à 17 degrés du nord au sud, 18 à 21 près de la Méditerranée.
La question du jour sur RTL.fr, faut-il ouvrir la vaccination à tous les Français? Vous êtes 82% à nous dire oui, à 12% de non. On attend vos appels, vos arguments au 3210. Bonjour Pascal Praud.
Bonjour, et c'est une forme de bon sens dont on parlera évidemment dans votre édition. Autre question, êtes-vous satisfait du calendrier du déconfinement? Est-ce que vous êtes pressé de retrouver une vie un peu plus normale? Cette levée progressive des restrictions vous convient-elle? Vous aurez la parole, comme vous aurez la parole sur les grands oubliés que sont les patrons des discothèques. Appelez-nous là encore au 3210, comme vous pourrez réagir à la cérémonie d'hommage national en mémoire de Stéphanie Monfermé.
Et on apprend à l'instant que sur Twitter, Emmanuel Macron vient d'expliquer que tous les Français de plus de 18 ans pourraient être vaccinés à partir du 15 juin. C'est donc l'élargissement dont on
il nous
parlait
écoutait, c'est
à l'instant.
Ce que vous voulez
voilà,
dire.
C'est ça.
Il écoutait votre journal, il écoutait
et
les
aussi.
Titres de votre journal et il a dit il faut que je fasse un tweet. Il a raison.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Et représenter une certaine façon de vivre la France, c'est avec ces mots que Jean Castex a rendu un hommage national à Stéphanie Monfermé à Rambouillet, non loin de l'endroit où elle a été assassinée par un terroriste il y a une semaine, une cérémonie simple et émouvante. Et le Premier ministre a insisté sur le côté profondément humain de cette mère de famille de 49 ans, Nicolas Burnand.
Oui, deux policiers en tenue d'apparat tiennent le portrait de Stéphanie Monfermé en noir et blanc. Le visage de la fonctionnaire administrative est souriant. Il le dépose sur une petite estrade. L'un de ses collègues prend alors la parole.
Stéphanie, on se souviendra de ta gentillesse au service. Tu nous apportais des petits chocolats pour accompagner notre café et des chouquettes de la maison Monfermé. Avec ton rire si communicatif, tu resteras dans nos cœurs. Nous serons toujours là pour ta famille.
Au premier rang, le mari de Stéphanie est debout, entouré de ses deux filles. Le Premier ministre Jean Castex les regarde longuement avant de s'exprimer.
Stéphanie n'était pas en faction. Stéphanie n'était pas un uniforme. Car Stéphanie représentait aussi une certaine façon de vivre en France. Chez les Monfermé, depuis toujours, on se levait très tôt. Alain, parce qu'il est boulanger, et Stéphanie, pour pouvoir conduire ses filles à l'école. C'est à cette vie simple que je suis aussi venu rendre hommage.
Le chef du gouvernement cite la policière à l'ordre de la nation, puis la Légion d'honneur à titre posthume est accrochée sur un coussin de velours bleu. L'assistance se fige, respecte une longue minute de silence. La Marseillaise retentit. Le portrait de la fonctionnaire en noir et blanc quitte la cérémonie, suivi par sa famille.
Reportage Nicolas Burnand. Une centaine de personnes ont assisté à cette cérémonie, parmi lesquelles Catherine, qui habite dans la rue du commissariat à Rambouillet.
J'ai trouvé que c'était une cérémonie très émouvante qui représentait bien la personne. Tout de suite, j'ai reconnu l'image d'une femme qui était au service de l'État, qui était une maman comme toutes les enfants souhaiteraient avoir, une épouse modèle, enfin bon, quelqu'un de très bien qui ne méritait surtout pas ça. J'ai été aussi fonctionnaire et je me dis que peut-être j'aurais été à sa place. Si j'avais croisé le chemin de cette personne, j'aurais pu être à sa place. Et j'imagine la souffrance de la famille qui est complètement brisée, qui va souffrir jusqu'à la fin de sa vie, quoi.
Témoignage de Catherine recueilli par Valentin Boisset. On connaît donc la date du jour d'après. Le 19 mai, on retrouvera l'air libre, les terrasses, les cinémas, les musées, les commerçants jusqu'à 21h, ce qu'Emmanuel Macron appelle notre art de vivre à la française. Alors que ferez-vous en premier ce jour-là? Vous avez posé la question à Raphaël Vantard dans les rues de Lyon.
Alors d'abord, la première chose que les Lyonnais ont prévu de faire, c'est d'obtenir de leur patron une journée de congé parce qu'il va falloir rattraper en quelques heures des mois de cinéma, de théâtre et de terrasse sans hésitation aucune, quelle que soit la météo. Gilles choisira d'abord la table de son café préféré.
Ça ouais, ça, une petite bière en terrasse, ça serait bien quoi. Ça ferait du bien. On va se retrouver, hein. Il n'y a pas à s'affoler.
Un verre en terrasse avec modération évidemment, sans limite. En revanche pour le cinéma, Cyriac a prévu d'enchaîner plusieurs séances avec ses amis.
Quand on est en avril, on se rend compte que oui, ça fait plaisir d'aller au cinéma, voir un film, souvent avec la famille ou avec des amis. Donc, ça rend heureux et puis apprécier le 7e art.
Et Cyriac le sait, il va falloir jouer serré pour le petit resto avec les copains en sortant du cinéma le 19 mai. Le couvre-feu sera normalement à 21h. Gros bouchon donc à prévoir dans les restaurants lyonnais.
C'est clair, et pas seulement à Lyon. Merci Raphaël. Et ensuite, à partir du 9 juin, les cafés-restaurants pourront accueillir de nouveau des clients en salle avec des tables de 6 personnes maximum. On pourra aussi faire du sport en salle. Le couvre-feu sera complètement levé le 30 juin. Et pour les événements culturels, il y aura une jauge de 1000 personnes via un pass sanitaire. Mais tout dépendra de l'évolution de l'épidémie. Il y aura des mesures de freinage d'urgence. Si le taux d'incidence, c'est-à-dire le nombre de personnes infectées, dépasse les 400 sur 100 000, aujourd'hui, on est à 289. Le variant indien a été repéré sur 4 personnes dans notre pays qui rentraient toutes d'Inde, dans le Lot-et-Garonne, en Gironde et dans les Bouches-du-Rhône. Mais pour l'instant, le variant anglais très présent fait plutôt barrage. Il faut donc vacciner encore plus vite. Et face à la polémique de ces derniers jours sur ces doses inutilisées, Olivier Véran, le ministre de la Santé, annonce ce matin l'élargissement de la vaccination à toutes les personnes qui souffrent de maladies chroniques sans critères d'âge à Gatlandais.
Oui, et ce sont au total plus de 4 millions de nouvelles personnes qui vont donc avoir accès à la vaccination. Sur ces 4 millions, plus de la moitié sont des personnes obèses qui ont donc un IMC, un indice de masse corporelle supérieur à 30. On sait que l'obésité, c'est aujourd'hui le principal facteur de risque juste après l'âge. Pour les autres personnes, il s'agit de tous les Français âgés de 18 à 50 ans qui souffrent de maladies chroniques qui les rendent plus à risque de développer une forme grave du Covid. Il s'agit de l'hypertension, des maladies cardiaques, du diabète, une insuffisance respiratoire comme un asthme sévère par exemple, une insuffisance rénale, un cancer ou enfin les patients immunodéprimés. Si vous êtes concerné, vous pouvez donc dès à présent prendre rendez-vous. Vous devez vous rendre avec une ordonnance dans un centre de vaccination, pas en médecine de ville. Vous recevrez l'un des deux vaccins à ARN messager, Pfizer ou Moderna. Les premiers créneaux vous seront ouverts dès ce week-end.
Bon, et face au problème AstraZeneca, Olivier Véran étudie la possibilité d'ouvrir la vaccination à tous les volontaires.
Alors, Emmanuel Macron a également fait un tweet à l'instant.
Oui, on en parlait tout à l'heure.
Rappelant que pour les personnes de plus de 18 ans, donc les personnes majeures en France, ils pourront se faire vacciner à partir de la mi-juin. En fait, ce n'est pas une accélération. Il rappelle le calendrier qui a toujours été prévu, que la vaccination soit ouverte aux personnes majeures, plus de 18 ans en population générale, à la mi-juin, avant l'été.
Donc rien de nouveau pour l'instant sur ce front-là. Merci Agathe. Alors, faut-il ouvrir la vaccination plus rapidement à tous les Français? C'est la question du jour sur RTL.fr sur laquelle vous avez envie de revenir, Pascal Proulx.
Bah, on pourrait l'imaginer, d'autant que la vaccination est désormais ouverte à tous les habitants de plus de 18 ans en Guadeloupe, Martinique et Saint-Martin. Et ce qui existe aux Antilles est duplicable dans la métropole et peut-être avant le 15 juin. Je rappelle que seuls 15 millions de Français ont reçu une première injection. On est loin de l'immunité collective, il faudrait au minimum 35 millions de vaccinés pour espérer cette immunité. Autre argument pour ouvrir à tous. Il y a aujourd'hui des doses non utilisées, des doses qu'on jette. Et j'entendais Karine Lacombe hier soir, Karine Lacombe qui est chef des maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine. Elle disait qu'on jetait précisément ces doses. Alors proposer la vaccination à tous, c'est empêcher le gaspillage des doses.
Eh ben justement, on va y venir concrètement. Sinamir, vous nous avez rejoint. Vous avez enquêté pour RTL dans une dizaine de départements et ce phénomène reste extrêmement marginal de ces doses qu'on jette.
Oui, on n'a pas de chiffre officiel pour ces doses perdues, mais on a des indicateurs et beaucoup de témoignages qu'on a compilés. Premier indicateur, vous prenez deux courbes fournies par les chiffres du ministère de la Santé, la courbe des doses livrées à ce jour et celle des doses injectées. Elles se suivent, c'est une première tendance. On injecte ce que l'on livre et ça, c'est majoritaire. Ensuite, le ministère a prévu 5% de pertes logistiques sur le volume total de vaccins. Vous avez peut-être entendu, vous le disiez, Pascal, le témoignage de Karine Lacombe. Également vu sur Internet la semaine dernière la vidéo de ce médecin à Mulhouse qui jetait dépité des doses d'AstraZeneca faute de patients volontaires. C'est arrivé ailleurs aussi. On a contacté une dizaine de professionnels qui ont été confrontés, mais à chaque fois, ils ont réagi. Ça ne leur arrive pas tous les jours. Certains se concentrent désormais uniquement sur les deuxièmes injections, par exemple. En attendant l'élargissement des critères, les patients sont déjà engagés dans un parcours de vaccination, ils vont revenir à coup sûr pour la deuxième dose, ils vont attendre après qu'on élargisse les critères pour rappeler d'autres de leurs patients. D'autres, comme dans des pharmacies, proposent beaucoup plus de créneaux que de doses réelles. Ils ratissent large avant de regrouper ensuite les rendez-vous pour ouvrir le flacon uniquement quand leurs patients sont dans le cabinet. Enfin, les médecins les plus fatalistes attendent les livraisons des flacons de Johnson & Johnson, car ils sont deux fois plus petits que l'AstraZeneca et permettront donc de regrouper plus facilement les patients 5 par 5.
Et dans les vaccinodromes, ça se passe comment?
Et ben alors là, on en a contacté 4 différents, Strasbourg, Saint-Denis, Saint-Quentin-en-Yvelines et Marseille, même réponse, gâchis, interdit, on sort même des critères, tout simplement, puisque le Moderna, le Pfizer le permettent, il n'y a pas de contre-indication, on sort des critères quand il reste des doses qui vont bientôt être périmées, donc beaucoup de coups de téléphone à nouveau, les listes d'attente qu'on sollicite, et le soir vers 17h, il n'est pas rare, si vous allez du côté du Stade de France, de voir une file spontanée qui se forme avec des personnes qui attendent une vaccination. Et lorsque des flacons sont encore ouverts, là aussi on les utilise. C'est ce qui s'est passé à Grenoble d'ailleurs hier matin.
L'enquête de Sinamir pour RTL. On fait une pause et dans un instant, les commerçants qui se préparent déjà à rouvrir le 19 mai.
RTL Midi avec Christelle Rebière.
Les restrictions de ces derniers mois ont bridé la croissance, 0,4% au premier trimestre par rapport au trimestre précédent d'après l'INSEE. Un rebond limité avec une consommation poussive. Elle a baissé de 1,1% en mars par rapport à février à cause de la fermeture de la plupart des commerces. Le 19 mai, les rideaux de fer vont se relever et à Tours, Christian Panvert, les petits commerçants retrouvent le sourire.
Dans la galerie du Grand Passage, en centre-ville, l'information a très vite circulé hier après-midi. Samantha dirige une petite boutique de chaussures. Elle est soulagée.
C'est important d'avoir une date de réouverture, parce que là, ça nous pesait vraiment moralement.
Chez Fred Aston, magasin de prêt-à-porter créé en 1952, Valérie, la gérante, tient grâce au click and collect, mais elle commence déjà à s'organiser.
Je vais faire revenir les équipes deux ou trois jours avant l'ouverture. On va changer la disposition du magasin. On va bien mettre en avant les nouvelles collections de cet été, quoi, en espérant qu'il fasse beau.
Elle a une crainte que ses clients aient pris de mauvaises habitudes.
Quel va être l'impact du télétravail? Quel est le comportement de nos consommateurs face à l'Internet? Est-ce qu'ils vont retrouver le plaisir de toucher, d'essayer, de se faire conseiller, j'espère que oui.
Quoi qu'il en soit, tout sera prêt pour bien les recevoir.
Que ce soit le gel, les masques, le comptage client, les affiches, dès le 19 mai, on sera au garde à vous et on sera prêt à accueillir nos premiers clients. On va peut-être leur faire même une eau là, je pense.
Reportage Christian Panvert. Quant aux cures thermales, elles pourront reprendre le 9 juin avec des jauges à 30%. C'est une information RTL de Guillaume Frixon. Elles ont été les premières à fermer et elles ne vont pas rouvrir. On parle des discothèques, les oubliés du plan dévoilé hier par Emmanuel Macron au nom des risques sanitaires. Nous sommes avec Mathieu Lebrun, porte-parole des gérants de discothèques de Bretagne et de Normandie. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Dans quel état d'esprit êtes-vous ce midi?
Là, c'est tout simplement du mépris, de la colère, de l'incompréhension. Rendez-vous compte, ça fait 15 mois que nous sommes fermés, 15 mois que nous vivons l'ascenseur émotionnel, 15 mois qu'on essaye de négocier, se faire entendre. Alors, je vous parle pas de l'aspect financier, qui est presque réglé, mais il y a encore des trous dans la raquette, où on a essayé. On a des multiples rendez-vous pour se faire entendre. Et ces derniers temps, avec
Alain Grisé,
Alain Grisé, qui est quasiment le ministre des discothèques et heureusement qui nous soutient. Mais derrière, et c'est ce qu'on dit, on est plusieurs à le dire, on essaye d'avoir des multitudes de rendez-vous avec la santé. Et à chaque fois, c'est Bercy qui nous rappelle. Enfin, je veux dire, c'est quand même dingue. C'est comme si vous appeliez votre médecin et c'est votre garagiste qui vous rappelle. Oui. C'est fou.
Mais alors, dites-moi du coup, pour cet été, vous imaginez quel scénario ?
Ah ben, ça va être le même scénario que l'année dernière. C'est-à-dire que ce qui s'est passé l'année dernière va se reproduire. L'année dernière, on a dit ce qu'allait se passer. Donc les fêtes sauvages, les soirées, les bars, les restaurants. Et c'est pas pour les dénigrer, hein. Enfin, c'est pas de la jalousie du tout. Mais ils vont se retrouver à faire notre métier par la force des choses, parce qu'on est fermé. Et c'est pas des spécialistes. C'est-à-dire que les spécialistes des soirées, de l'encadrement de la jeunesse, seront fermés.
Mais alors, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer ? Vous réclamez, vous aussi, un pass sanitaire, puisque le système sera utilisé pour les concerts cet été ?
Eh ben, mais exactement. Là, c'est-à-dire qu'en ce moment, depuis hier, le gouvernement et le président en tête nous expliquent que les salles de concert vont ouvrir avec un groupe musical en face des spectateurs qui vont pouvoir danser, chanter, parce que malgré tout, dans une salle de concert, on se bouge, hein, chanter, pourquoi pas, comme disait Olivier Véran, se tousser dessus. Ils vont boire des bières. Et par contre, une boîte de nuit ou avec des spectateurs en face d'un DJ, ça, c'est interdit.
Oui, mais c'est peut-être plus facile de délimiter dans un concert, par exemple, s'il y a des places assises, de garder une place sur deux, que dans une discothèque où les gens vont forcément se frotter les uns aux autres.
Ben, je vous explique, je vous demande de m'expliquer comment on fait avec une fosse.
Ah bah s'il y a une fosse, oui, c'est la même chose, on est d'accord. Ah
mais bien sûr, on faudra voir évidemment comment ils vont mettre
comment
les...
Comment ils vont organiser, mais un pass sanitaire, ouais, pour vous, ça paraît envisageable, par exemple.
Mais bien sûr, ça fait, de toute façon, toute manière, ça fait un an qu'on est fermé, enfin 15 mois exactement, qu'on est fermé, sans aucune étude scientifique, et je parle aussi pour mes collègues restaurateurs et bars. On nous a fermés, disant, vous êtes dangereux, terminé. On a demandé, depuis le mois de janvier, on demande de faire une étude scientifique au moins dans une dizaine de discothèques pour le prouver, et au moins, pourquoi pas, si les scientifiques pourraient nous dire effectivement on a un petit souci et on ouvre.
Oui, bien sûr.
En train de nous parler des extracteurs d'air. Ça fait un an depuis le mois de juillet dernier qu'on en parle, qu'on a des extracteurs d'air. Toutes les 8 minutes, l'air de nos discothèques est renouvelé, lié normalement à l'extraction des fumées en cas de feu. Et on n'écoute pas. Réellement, on a un problème avec Olivier Véran. Je le dis et je le répète. Je pense, et je m'en excuse auprès du ministre de la Santé, peut-être que quand il faisait ses études de médecine, il a été recalé d'une boîte de nuit et depuis, il nous en veut. Mais maman, un moment, que ça soit Olivier Véran et surtout, on réclame un rendez-vous avec le président de la République pour enfin qu'on nous entendre et qu'on prenne en compte, on est des professionnels, on n'est pas des fous, mais réellement, quand je vois que tout le monde va rouvrir et qu'on nous explique, on rouvre tout et marqué en bas, les discothèques vont rester fermées, mais rendez-vous compte
bien
du
sûr.
Mépris pour 1600 patrons de boîtes de nuit.
C'est une injustice et une discrimination. Merci beaucoup Mathieu Lebrun, porte-parole des gérants de discothèques en Bretagne et en Normandie. Merci pour votre témoignage. On surveille aussi de près la rentrée lundi dans les collèges et lycées avec des demi-jauges. Actuellement, 19 écoles et 1118 classes sont fermées dans le premier degré, 5 jours après la rentrée, ce qui représente 0,4% des classes. Emmanuel Macron ne s'en cache pas. Dans son interview accordée à la presse quotidienne régionale, il faudra vivre avec la maladie peut-être pendant de nombreuses années. Mais il a aussi cette phrase : nous avons une nouvelle décennie française à bâtir. Autrement dit, il se projette déjà vers une future campagne électorale, William Galibert.
Oui, et ça n'a rien de très subtil. Je veux reprendre mon bâton de pèlerin et aller dans les territoires pour prendre le pouls du pays. Voilà les mots d'Emmanuel Macron. Tiens, un président à un an de l'élection qui se lance dans une grande tournée des territoires dès le mois de juin. Oui, c'est une pré-campagne présidentielle qui s'amorce. On ne connaît pas encore les détails de ce Tour de France. Ce qui est clair, c'est que le chef de l'État veut retourner au contact des Français pour convaincre. Il adore ça. Il sait que le meilleur VRP de la Macronie, c'est lui. Et il veut fixer lui-même les thèmes du débat. La relance, la réindustrialisation, la jeunesse... De quoi esquisser un futur programme ? Ça lui permet aussi de prendre de court ses adversaires comme Xavier Bertrand, qui sera en pleine course pour les régionales, avec l'espoir de tourner la page Covid, de profiter de l'enthousiasme des beaux jours et des réouvertures. et en croisant les doigts aussi pour éviter une quatrième vague de l'épidémie.
Décryptage William Galibert. Cette fois, c'est fini. L'usine Bridgestone de Béthune fermera définitivement ses portes ce soir. 863 salariés y fabriquaient des pneus de petit calibre. Mais le géant japonais a décidé d'en rester là et le site va être transformé. Franck Hanson, vous êtes sur place pour RTL où l'émotion est teintée d'amertume?
Oui, dernière poignée de main avec les collègues, une petite photo devant l'enseigne Bridgestone, mais pas trop envie de s'éterniser. L'odeur des pneus avait déjà disparu des ateliers depuis plusieurs semaines. Une nouvelle vie qui démarre donc pour ces ouvriers qui ont pointé jusqu'au bout. Frédéric, 15 ans d'ancienneté, s'apprête à ouvrir une société de nettoyage.
Aujourd'hui, c'est pas la journée la plus dure, parce qu'aujourd'hui, bon, c'est la journée des adieux. Le plus dur, ça a été qu'on a vidé le vestiaire, qu'on a vidé le casier. C'était une grande famille quand même. C'était une entreprise très familiale. C'était le cousin qui donnait le CV du frère. Il aurait fallu énormément d'investissement. Il y a eu trop de laisser-aller. On s'est pas trop inquiété parce qu'on s'est dit c'est un gros groupe. À un moment, ils vont réinvestir de l'argent. Mais à ce moment-là, il était trop tard. Un très beau gâchis, ouais.
Avant de rejoindre la mairie de Béthune pour un ultime rassemblement, ses salariés partagent un dernier verre à la baraque à frites devant l'usine. Jean-Claude, l'un des anciens, est un peu amer.
Ça fait un peu mal au cœur quand même. On était quand même dans une bonne boutique, hein, faut pas croire. Hein. Donc il y a beaucoup de regrets parce que maintenant, ça va être beaucoup très difficile pour certains. Là. On peut aussi un peu en vouloir à la France. Hein. Ça revient cher hein, par rapport aux autres pays.
Sur les 863 salariés, plus de 250 auraient déjà trouvé une solution de repli. Pour les autres, on ne les laissera pas tomber, promet la ministre de l'Industrie qui vient faire le point ce soir avec l'intersyndicale.
Franck Hanson à Béthune pour RTL. C'est l'une des plus graves catastrophes de l'histoire d'Israël. C'est ce qu'a déclaré ce matin le Premier ministre Benjamin Netanyahou à Meron, où une gigantesque bousculade durant un pèlerinage a coûté la vie à 44 personnes. Il y a aussi 150 blessés et ce bilan pourrait s'alourdir. Il s'agissait d'un pèlerinage juif orthodoxe dans le nord du pays, le plus grand rassemblement depuis le début de la pandémie qui a viré au cauchemar. Une correspondance de Stéphane Amar.
Toute la nuit, le balai des ambulances dans les rues de Meron, un petit village de Galilée dans le nord d'Israël. Traditionnellement, chaque année, des dizaines de milliers de pèlerins convergent pour célébrer le rabbin Shimon Bar Yochai autour de grands feux de bois. Il était environ 1h du matin lorsqu'un mouvement de foule a provoqué la panique, une véritable avalanche humaine selon des témoins, causant au moins 44 morts. Le Premier ministre Netanyahou s'est rendu sur place.
La catastrophe du mont Meron est l'une des plus grandes catastrophes qu'ait connue l'État d'Israël. Il y a eu des images déchirantes, des gens écrasés jusqu'à la mort, y compris des enfants.
L'an dernier, le pèlerinage n'avait pas eu lieu pour cause de coronavirus. Cette année, la police avait demandé aux fidèles de venir en petit nombre. Elle n'a pas été entendue. Au moins 100 000 personnes se trouvaient dans le village lorsque le drame a éclaté.
Correspondance RTL en Israël, Stéphane Amar.
RTL, le coup de cœur de nos correspondants.
Nous partons aujourd'hui à Vic-sur-Mer, une petite commune de la Manche. Plusieurs personnes ont reçu ces derniers jours dans leur boîte aux lettres des lettres anonymes. Mais ni menaces, ni dénonciations, non, non. Le corbeau était plutôt un rossignol, Frédéric Veil.
Oui, ces petits mots, ce n'était pas le facteur qui les déposait, mais un mystérieux ou une mystérieuse anonyme qui agissait très discrètement, la nuit tombée, vraisemblablement. Sandrine était l'une de ses destinataires.
Alors, on a reçu un petit post-it rose sur lequel il y avait un petit mot sympathique, je peux vous le lire parce que je l'ai sous les yeux. Donc, il disait « Bonjour, nous sommes dans une période compliquée, mais un peu de positivité fait toujours plaisir. Alors, je vous souhaite une excellente journée, en espérant que ce mot vous aura fait sourire. » Voilà, un petit smiley, un petit poisson en bas du post-it. C'est vrai que c'était très agréable et assez surprenant.
En bas de ces post-it, la signature CMA a permis à la municipalité de supposer que ces petits mots anonymes seraient l'œuvre de trois jeunes femmes, peut-être même des ados et plus certainement des vacancières. C'est ce que confirme la secrétaire du maire.
Donc on suspecte qu'effectivement ces personnes-là étaient peut-être dans un gîte ou en vacances et qu'elles sont reparties. Et c'est pour ça qu'on n'en a plus.
Et c'est bien dommage parce qu'ils faisaient du bien ces petits messages de sympathie, de joie et d'empathie.
Reportage Frédéric Veil dans la Manche. Il y a une semaine, on vivait avec émotion le décollage de Thomas Pesquet dans la capsule Crew Dragon. Objectif, la station spatiale internationale. Et bien, pour la première fois, il a donné de ses nouvelles ce matin dans une interview en direct, en apesanteur et tout en décontraction aussi, Patrick Tégéro.
Ah oui, ça, on a pu constater que ça plane pour lui et littéralement en apesanteur, comme vous le disiez, et jouant avec un ballon en forme de globe terrestre, Thomas Pesquet est radieux, visiblement heureux d'être là-haut et de faire partager sa passion. Mais même s'il déplore qu'il n'y a que 6 couchettes pour 11, cette mission, eh bien, ce n'est que du bonheur. Et ce, dès le décollage, qui est pourtant l'un des moments les plus dangereux.
Si on aime les manèges de foire et les sensations fortes, un décollage en fusée, c'est ce qu'on peut faire de mieux. L'accélération, les vibrations, cette vitesse incroyable. Et on avait tous un énorme sourire, on riait tous dans la capsule en étant sérieux, bien sûr, mais juste parce que les sensations sont phénoménales.
Et son nouveau vaisseau, le Crew Dragon, il l'a adoré. Pour lui, c'est un petit peu la Tesla de l'espace.
Super confortable au décollage, plutôt spacieux. C'est vraiment la voiture moderne avec les écrans plats tactiles. Par contre, pour ce qui est du rangement, ça a été un peu compliqué de retrouver toutes ces affaires. Tout est un peu caché, intégré. C'est fait pour que ça soit joli, c'est vrai. C'est une volonté de SpaceX. Mais nous, on a plutôt l'habitude des choses qui sont moches et fonctionnelles dans le spatial.
Donc tout va bien pour Thomas, sauf que son micro tombe en panne en fin d'interview.
Panne de pile à bord de la station spatiale et de la caméra et du micro. Tout mon équipage se joint à moi pour vous souhaiter une bonne journée.
Alors toujours aussi sympa, toujours aussi enthousiaste, Thomas Pesquet a démontré à nouveau que son élément, eh bien, c'est l'espace.
C'est l'espace et c'est l'apesanteur. Il est 400 km au-dessus du Covid, il a bien de la chance. On retrouve Pascal Praud.
Il n'est d'ailleurs pas si haut que ça. On a le sentiment au départ qu'il pouvait être plus haut. Il est à 400 km, c'est une vraie distance, mais... Voilà.
Ah oui, ces photos sont toujours aussi extraordinaires.
Extraordinaire.
Ça nous fait rêver, on en a besoin. Oui, Pascal.
Je suis d'accord. Alors, on est satisfait évidemment du calendrier du déconfinement. Simplement, les discothèques sont les grands oubliés. Et c'est vrai qu'on n'a pas. Moi, j'ai passé l'âge, en tout cas, d'y aller dans les discothèques. Mais je trouve incroyable qu'il n'y ait pas de calendrier. Ils ne sont pas reçus, les patrons de discothèques. On ne leur dit rien et de ça. Ils ne travaillent plus depuis le 15 mars l'année passée. Vous imaginez une activité qui peut se passer comme ça pendant plus de 15 mois, 16 mois de toute recette. Faut les aider et puis faut leur parler. Faut leur dire cette année c'est peut-être fermé, je sais pas ce qu'il faut faire, mais il faut pas les laisser dans cette situation.
Et puis on reparlera aussi de la vaccination.
Bien sûr.
La vaccination.
Évidemment.
À tout de suite. La météo, Céline Dacosta, c'est toujours un peu trop frais.
Oui, c'est vrai. Le printemps a du mal à s'installer, on peut le dire. Cet après-midi, 12 degrés à Cherbourg, au Havre, 13 à Lille, à Mulhouse, à Aurillac, 14 à Brest et Nancy, 16 à Paris ou encore Bordeaux, 17 à Toulouse. C'est un petit peu plus chaud tout de même dans le sud-est avec 19 degrés à Marseille, jusqu'à 21 degrés pour la maximale à Ajaccio. Côté ciel, ça reste couvert et ça sur l'ensemble du pays. Alors on a un léger mieux quand même. Sur la moitié nord, on a quelques éclaircies, mais ça va rester variable avec des passages nuageux qui pourraient aussi apporter quelques averses. Pour la moitié sud, c'est plus gris. Le soleil reviendra timidement sur les côtes méditerranéennes. En revanche, localement, on aura encore des averses, notamment sur la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis, une nouvelle perturbation va arriver en fin de journée par les Pyrénées et apporter des orages.
Bon, et demain, il paraît que c'est la journée internationale du jardinage nu.
Ah,
c'est pas gagné.
Ah bah non. Non, non, parce qu'on va encore perdre quelques degrés. Vous allez le faire,
on me
Pascal.
Dit rien.
Non, ben voilà, vous êtes au courant.
Journée internationale
du jardinage.
C'est dingue.
Alors c'est pas donc gagné parce qu'on va encore perdre quelques degrés, ça c'est vrai. À savoir ajouter les fortes pluies qui seront présentes du massif central jusqu'au flanc est, le risque d'averse avec encore un ciel bien instable pour les autres. Je pense que là vous vous êtes habillés. Ce sera plus calme avec des éclaircies sur les côtes de la Manche, le littoral atlantique. Donc un samedi bof bof, mais dimanche les conditions s'améliorent un peu, puisqu'on aura davantage de soleil, surtout sur la région PACA. Pour le reste du pays, ça va rester variable, un nuage, risque d'averse, mais aussi des éclaircies qui seront plus présentes sur la moitié nord. Côté température, on l'a compris, ça reste plus frais. Toujours en dessous des normales de saison, 15 à 17 degrés en moyenne.
Merci Céline. À suivre le rappel des titres, il va être 13h sur RTL.
RTL.
RTL. Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.
Alexandra, qui nous a appelé régulièrement durant cette pandémie. Bonjour Alexandra.
Bonjour Pascal, bonjour auditeurs.
Vous avez enfin une date de réouverture et ça, c'est ce qui est important pour vous. Le 19, vous rouvrez.
Absolument. Très important, très impatient.
Eh bien, on va en parler ensemble. Christelle le rappelle des titres.
Ouvrir, justement, et élargir les commerces, terrasses et autres cinémas rouvriront le 19 mai dans le respect des gestes barrières. Mais parce que le virus circule toujours très activement, il faut vacciner au plus vite. Olivier Véran, le ministre de la Santé, élargit à partir de demain la vaccination à toutes les personnes de plus de 18 ans dites fragiles qui souffrent de comorbidité. Ça représente un peu plus de 4 millions de personnes. Le terrorisme n'est rien d'autre qu'un fanatisme ordinaire. Jean Castex a dénoncé une guerre de lâches Il a rendu hommage à Stéphanie Monfermé ce matin, assassinée au commissariat de Rambouillet il y a une semaine. Elle représentait une certaine façon de vivre la France, a dit le Premier ministre, avant de la décorer de la Légion d'honneur à titre posthume. Israël confronté à l'une des plus graves catastrophes de son histoire, une bousculade géante lors d'un pèlerinage juif orthodoxe a coûté la vie à 44 personnes dans le nord du pays. Les Jeux Olympiques de Tokyo cet été pourraient avoir lieu à huis clos. La décision sera prise en juin. C'est ce qu'affirme la présidente du comité d'organisation à l'agence France-Presse. Et les athlètes devraient être soumis à un test quotidien.